Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Et en ce 1er mai, un héros oublié, Jules Durand, ouvrier, anarchiste et martyr.
Réunion Saint-Franklin, mise au point de nos revendications. Un franc de plus par heure, salaire double le dimanche, fermeture des bistrots et douche après le travail. Mise en demeure de la compagnie et s'il refuse, la grève, jusqu'à reconnaissance de nos droits.
Nous sommes en 1910. Jusqu'ici, le social s'est développé hors de la sphère législative de la Troisième République, avec les sociétés de secours, les coopératives, les sociétés d'assurance mutuelle. Celles-ci comptent alors trois fois plus de membres que le syndicat CGT. Cependant, la conjoncture évolue depuis quelques années. La vigueur des mouvements ouvriers questionne la nouvelle génération politique aux commandes. Les catholiques sociaux s'inquiètent du travail des femmes, du travail du dimanche. Le radical Léon Bourgeois préconise un nouveau contrat social qu'il appelle le solidarisme. Jaurès invente un socialisme à la française qui ne néglige pas les réformes possibles tout de suite au nom d'une hypothétique révolution à venir. 1910 est une année clé qui va donner une substance, enfin, aux retraites ouvrières et paysannes et un fondement plus solide aux droits de grève. Mais c'est au prix de tensions extrêmes. Ainsi, à l'automne 1910, tandis que le gouvernement brillant dénonce dans la grève des cheminots une volonté de guerre civile, les jurés de la cour d'assises de la Seine inférieure condamnent à la peine de mort l'initiateur de la grève des dockers du Havre, Jules Durand, pour une rixe mortelle dont il n'est pas le responsable. Une erreur judiciaire redouble l'affrontement de classe.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Pierre Castelin, bonjour.
Bonjour.
Que je peux présenter comme un sociologue qui est à l'écoute de la parole des ouvriers, de la parole des insulaires, de la parole des hôpitaux. Et vous êtes le président de la toute jeune association des amis de Jules Durand, qui a été constitué il y a 2-3 ans.
Nous allons bientôt célébrer le 3e anniversaire.
De temps en temps, il y a des rebonds de la mémoire de Jules Durand. Notamment, en 1956, inauguration d'un boulevard Jules Durand au Havre, et surtout en 1961, avec une pièce qui s'intitule « Boulevard Durand », et dont l'auteur est un grand havrais, très connu à l'époque. Vous l'avez d'ailleurs fréquenté, peut-être de loin, Armand Salacrou.
Armand Salacrou, oui, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, de le connaître.
Il était redoutable, non?
Disons qu'il avait une personnalité très marquée, très déterminée.
Vif, impératif. Le voici qui explique au micro de Pierre Dumayet les raisons de la rédaction de cette pièce.
J'avais 10 ans. Mes parents, à cette époque, habitaient le Havre et notre maison était devant la prison. J'étais obsédé par ces gens qui étaient derrière des murs. Et surtout, comme dans ma famille, on croyait à l'innocence de Durand. Vous savez, c'est terrible pour un enfant de 10 ans d'avoir la conviction qu'un homme est derrière des murs d'une prison et qu'il est innocent. Et qu'il est innocent parce qu'il était bon.
Est-ce la bonté de Durand ou l'injustice de cette affaire qui vous a le plus marqué à cet âge?
À cet âge-là, je ne connaissais pas Durand, c'était l'injustice. D'ailleurs, je pourrais presque dire la terre entière, enfin, c'était une des grosses affaires mondiales. Les ouvriers de Chicago ont fait grève, les ouvriers de Bilbao ont fait grève.
Vous avez pensé à cette histoire toute votre vie, à peu près?
Vous savez, Dumayet, c'est peut-être la première fois que j'ai eu le sentiment d'écrire exactement ce que je voulais écrire et d'avoir la conscience tranquille et d'être heureux d'avoir fait cette pièce avant de mourir.
Armand Salacrou, au micro de Pierre Dumayet, lecture pour tous, 1961. Il y a eu deux adaptations télévisées de cette pièce, la première dans une adaptation de Louis Rebaz, Scène dramatique du Nord, et puis celle que nous allons utiliser est signée Jean-Paul Carrière et date de 1972, diffusion en 1974. Je crois que vous l'avez projetée d'ailleurs avec l'association des Amis de Jules Durand.
Voilà, il y a quelques mois, le 25 novembre dernier, jour anniversaire de la condamnation à mort, l'Université du Havre a inauguré un amphithéâtre Jules Durand, ce qui est une grande première au-delà du Havre, c'est-à-dire c'est bien la première fois à ma connaissance qu'une université française baptise son plus grand amphithéâtre du nom d'un docker charbonnier.
Un docker charbonnier, alors il faut que vous nous racontiez ce qu'est le port du Havre en 1910. C'est une ville de 130 ou 140 000 habitants et dont toutes les activités sont tournées vers la mer.
Voilà, ce sont les années de très grande expansion où le Havre, le port du Havre, devient l'un des premiers ports d'Europe et par la même occasion l'un des premiers ports du monde. C'est-à-dire, le Havre est la porte d'entrée en France et en Europe.
On va entendre le premier extrait de la pièce. Jules Durand vit chez ses parents. Le père, c'est François Darbon. Jules Durand, c'est Christian Louvet.
Qui nous écoute.
Et les parents et Jules Durand élèvent des pigeons, sont colombophiles, comme dans le nord de la France. Le père est un peu mécontent des activités syndicalistes qu'il connaît depuis plusieurs années de son fils qui a 30 ans.
Des pigeons voyageurs, c'est pour correspondre avec qui?
Pour correspondre avec tout ce qui est vivant.
Toute la nature,
la terre, le ciel.
Oui, et en cas de révolution, ils font parvenir du message secret.
Qu'est-ce que tu racontes?
Ce qu'on m'a dit.
Mais ceux qui t'ont parlé ainsi sont des idiots.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Pourquoi tu discutes avec lui? Il est machu comme une bourrique.
Maman a raison. On n'est pas d'accord sur les événements, alors parlons d'autre chose. Seulement à mes yeux, un homme qui ne lutte pas pour le progrès n'est pas un honnête homme.
Qu'est-ce que c'est?
Un abruti ou un profiteur. Il n'y a pas que chez les patrons qu'il y a des profiteurs. Chez les ouvriers aussi.
C'est pour moi que tu dis ça?
Je dis ça pour tout le monde. Et avant tout pour moi. Surtout pour moi. Quand je suis tenté de baisser la tête et d'accepter ce qui n'est pas acceptable.
Oh, mais vous n'allez tout de même pas vous disputer. Alors, t'es le frère de la terre entière, mais tu connais plus ton père.
Pas facile de convaincre son père qu'on peut être sur la liste noire de ces messieurs des bureaux et de ces messieurs de la côte, et être néanmoins un honnête homme. Ces messieurs de la côte, alors c'est qui? Sont les armateurs, les courtiers, les animateurs de la CGT, Compagnie Générale Transatlantique?
Ce sont tous ces gens-là, certains bien sûr étant plus prestigieux, plus importants, ayant plus de pouvoir que d'autres. Et la Transat avait un pouvoir un peu de leader vis-à-vis des autres compagnies commerciales, vis-à-vis des autres armateurs.
Pouvoir qu'elle essayait de garder en embauchant des ouvriers jaunes. On les appelle au Havre les renards, mais le syndicalisme jaune, parce que c'est un syndicalisme. Il est en plein développement dans ce début des années 1900.
Au début des années 1900, le syndicalisme jaune apparaît, se développe très rapidement dans toute la France. Et au Havre en particulier, une union syndicale jaune se crée en 1903, dont on pourra peut-être parler, puisque Donger, la victime de la rixe d'Ivrogne, appartenait à ce syndicat jaune en même temps qu'il appartenait aussi, peut-être comme informateur, au syndicat des charbonniers.
Dialogue reconstitué, selon Armand Salacrou, d'un leader jaune avec un patron de la Compagnie Générale Transatlantique au moment, août 1910, où le syndicat des dockers charbonniers animé par Jules Durand déclenche une grève au motif que la mécanisation du port les menace et qu'un certain nombre de revendications doivent être posées.
Je croyais qu'à l'intérieur de ce syndicat des ouvriers charbonniers du port, vous aviez placé des hommes à vous.
C'est exact, monsieur le président.
Alors comment expliquez-vous que cette grève ait été votée à l'unanimité?
Parce que je suis moi aussi convaincu de son utilité.
Quoi?
Pour la briser, monsieur le président. Et détruire du même coup ce jeune syndicat trop turbulent. Une grève de charbon déclenchée en plein été ne peut pas réussir. En hiver, nous aurions vu la population contre nous, or les grands froids sont encore très loin. Si la grève dure 15 jours, nous serons dans l'obligation de détourner nos autres navires sur Hambourg. Le public laissera-t-il un ramassis d'ivrogne traînant la savate ruiner notre port au bénéfice des ports allemands?
L'approvisionnement, c'est toujours à flux tendu, mais la question qui est posée là, c'est celle de l'opportunité d'une grève du charbon au mois d'août. Il est difficile pour Durand de convaincre son père et sa mère, et lui aussi difficile de convaincre le syndicaliste de la CGT venu de Paris.
Quand on engage un combat, c'est pour le gagner. D'après toi, si tu pouvais empêcher l'appareillage de tous les navires, combien de temps le port pourrait-il tenir?
Un mois, peut-être 6 semaines.
Et pour le ravitaillement des usines en charbon,
En ce moment, ils ravitaillent les usines avec les stocks du foyer domestique prévus pour l'hiver.
Est-ce que vous avez cru malin de déclencher une grève du charbon en plein été?
On ne peut plus attendre. Tu peux pas imaginer la misère de mes compagnons.
C'est pas parce qu'elle est juste qu'on déclenche une grève. On la déclenche quand elle doit réussir. On fait pas de politique, ni toi ni moi. Nous sommes des syndiqués. Voilà tout.
On ne fait pas de politique, ni toi ni moi. Nous sommes des syndiqués. Voilà tout. Alors, on sait peut-être maintenant, grâce à vous, Jean-Pierre Castelin, un peu ce qu'est le syndicalisme jaune. Qu'est-ce que c'est que le grand syndicalisme ? Anarcho-syndicaliste, c'est l'expression qu'il faut utiliser. La CGT, d'après la charte d'Amiens, qui date aussi des années 1900.
1906. Mieux vaut parler de syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire le mot, l'expression de l'époque. À savoir le syndicat comme étant l'organisme d'émancipation des travailleurs.
C'est pour ça que le leader cégétiste dit « on ne fait pas de politique, il faut l'entendre comme ça ». Mais vous récusez le mot anarchiste, c'est ça qui vous gêne? J'ai dit dans le titre de l'émission « Jules Durand, anarchiste ».
J'ai bien entendu. Mais je n'ai pas réagi tout de suite. On peut parler à différents niveaux. Incontestablement, Jules Durand, secrétaire du syndicat des ouvriers charbonniers, et syndicaliste révolutionnaire. Alors, à partir de là, il y a un débat, ou un débat pour certains, est-ce que Durand était anarchiste ou pas? C'est vrai qu'il y avait énormément, il y avait au moins deux groupes anarchistes au Havre, à cette époque. Les anarchistes étaient très nombreux dans les syndicats à la CGT à l'époque. Est-ce que pour autant, est-ce que ça suffit pour dire que, pour mettre ce mot à Durand anarchiste, je ne sais pas. J'attends la preuve. Je veux bien, ça me gêne pas. Mais il n'y a aucune preuve posant Durand comme anarchiste.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la caisse de grève, cet été 1910, des syndicalistes charbonniers se remplit un peu. On va marquer une pause pour voir comment, ensuite, l'histoire va devenir carrément tragique. En écoutant, non pas une chanson de l'époque, mais Little Bob. Alors, Little Bob, c'est une haute figure havraise, j'allais dire, du 21e siècle. Il y a très peu d'années, en 2011, Harry Korismaki filmait Le Havre. Superbe film.
C'est un film que j'aime énormément. Je partage pour beaucoup sa vision du Havre.
Maintenant, les plateformes pour les conteneurs sont au loin. Dans les conteneurs, il y a parfois des réfugiés. Et si on entend Little Bob, c'est parce que un groupe d'amis d'un enfant réfugié, immigré, qui s'était caché dans un conteneur, organise une collecte. Et celle-ci est fédérée, évidemment, par le grand nom de Little Bob, qui chante dans un café, évidemment aussi.
The sky is grey, winds are strong. The Peter's family workout did nobody wrong.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. As you can see, I try to stay
free. Try to stay free. Jules Durand, c'était en 1910 au Havre, Roberto Piazza, Little Bob, c'est en 2011 cet enregistrement, au Havre, vous ne contesterez pas. Jean-Pierre Castelin, président de l'Association des Amis de Jules Durand, que Roberto Piazza est le fils d'un anarchiste.
Je ne conteste pas, je n'ai rien contre les anarchistes, mais il y a tellement d'idées fausses, de clichés, de stéréotypes sur Jules Durand, que ce qui me motive en grande partie, c'est de trouver la réalité de qui fut Jules Durand et les Charbonniers.
Donc on lance un appel à la Compagnie Générale Transatlantique pour qu'elle retrouve les archives disparues, au ministère de la Justice pour qu'il retrouve les archives disparues, à l'hôpital psychiatrique où finira par mourir Jules Durand pour qu'il retrouve les archives disparues. Vous ne pouvez pas contester que Little Bob chante dans un café de Docker qui existait en 1910, déjà au Havre. Vous qui avez étudié le monde des cafés des ports. C'était le Havre, le port le plus alcoolisé de France, mais Jules Durand, lui, était abstinent.
Le port du Havre était le port le plus alcoolisé de France, peut-être même d'Europe, pourrait-on dire. Et c'est une des caractéristiques de la personnalité difficile à cerner et donc à comprendre, ce qui peut expliquer l'acharnement aussi contre lui, la personnalité de Jules Durand. Dans un milieu où le secrétaire de l'Union des syndicats, Jérôme, anarchiste, en 1910, dans un mémorandum de soutien à Jules Durand, écrit que 90% des charbonniers étaient des ivrognes ou des alcooliques, je ne me souviens pas du mot exact. Et dans ce milieu, effectivement, Jules Durand était buveur d'eau. Buveur d'eau, abstinent volontaire, il faisait partie d'une ligue anti-alcoolique, et on a le témoignage de quelques conférences qu'il a prononcées contre l'alcool. De même, quant au côté atypique, difficile à cerner, il était membre de la Ligue des droits de l'homme. Des charbonniers membres de la Ligue des droits de l'homme, il y en avait certainement peu à l'époque. C'était un lettré qui a refusé les emplois de bureau et qui a choisi d'être charbonnier.
La grève bat son plein le 9 septembre quand un jaune, on dit un renard, nommé Capron dans la pièce d'Armand Salacrou, qui s'appelle en réalité Donger, rentre chez lui. Lui ne participe pas à la grève. Il est alpagué à proximité d'un caboulot par quatre charbonniers qui, sans être syndiqués, eux, semblent grévistes. Enfin, ils sont tous aussi ivres les uns que les autres.
Ils ferment pas la nuit, ce bistrot-là !
Et pour du chouette rhum, c'est du chouette !
Tu as quelqu'un ?
Je veux que tu sors, toi !
D'où je sors ? Je me promène.
Eh bien, tu vois, mon gars, si tu nous le disais pas, on ne le croirait pas.
On m'aurait demandé de tes nouvelles que j'aurais dit, mais Capron, il travaille.
Et tu te serais gouré, mon gars, car tu vois, je prends l'air.
Ah, tu prends l'air.
Alors, t'es pas seulement un jaune, hein.
T'es aussi un mouchard.
Un mouchard? Est-ce que je te traite de feignant, moi?
Tu nous traites de feignant?
Et de mardigot?
Ben alors?
Vous me faites pas faire. Je suis pas tout seul. J'ai un pétard avec moi.
Ah, t'as un pétard?
Ouais. Hey, pour ceux qui me regardent de travers.
L'ordure, le fumier! Salaud!
Il a tiré le salaud!
Salaud, t'as tué le salaud!
Allez, vas-y, ouais!
Allez, 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 allez,
allez, allez,
salaud! T'as compris?
Eh, fabriqué! Nous?
Ouais, vous!
Hey. On essaie d'expliquer à un copain qu'elle a compris la difficile.
Il est mort, cet homme-là.
Et la police est là. Alors ça va permettre à la Compagnie Générale Transatlantique, appuyée par la presse locale, de monter une machination qui n'est permise que par la possibilité d'acheter le témoignage de Charbonnier, qui aurait entendu Jules Durand dire, salle Franklin, le haut lieu des réunions, on va faire la fête à Capron, Donger.
Voilà, bon. La mort de Donger est le prétexte pour la Compagnie Générale Transatlantique, puisque c'était la compagnie la plus impliquée dans la grève des charbonniers, prétexte à casser les charbonniers et casser Durand en particulier. Ce buveur d'eau, porte-parole d'une bande d'alcooliques. Donc, effectivement, fallait le supprimer. Supprimé, comme on a accusé Durand, d'avoir dit en réunion, devant 600 personnes, il faut le supprimer, en parlant de Donger. Durand pensait évidemment le supprimer du syndicat. Simplement que là, bon, c'est le prétexte qui a servi de base à toute une machination orchestré par Stanislas Ducrot, l'agent de la Compagnie Générale Transatlantique au Havre à cette époque, qui a acheté de faux témoins, témoins qui ont juré que Durand avait dit, etc., ce que l'on évoque. Non seulement l'appel au meurtre de Danger, soi-disant appel au meurtre, mais en plus, toujours devant des centaines de personnes, Durand aurait désigné le commando chargé de tuer Danger.
Ce discours de criminalisation, si j'élargis un peu, Jean-Pierre Castelin, on l'entend à la Chambre quand, à la suite de la grève des cheminots qui a lieu à ce moment-là, le président du Conseil, ex-socialiste, Briand, dit « Vous, les cheminots, vous avez voulu mener le pays à la guerre civile. Vous avez lancé sur les voies des locomotives sans chauffeur. Vous avez coupé les fils télégraphiques, téléphoniques, sémaphoriques. Vous avez poussé des non-syndicalistes et des non-grévistes au suicide. » Et si je parle de la grève des cheminots, c'est parce que quand, très vite, s'organise le procès de Durand devant la cour d'assises de Rouen, avec comme co-inculpé les hommes de la Rix et quelques-uns de ses proches du syndicat, le même langage est tenu par l'avocat général. Le langage de criminalisation.
Absolument, et ça c'est un processus qui se déroule depuis plusieurs années, quand Clémenceau, ministre de l'Intérieur, faisait tirer sur les cortèges, en gros de 1900, enfin dans les 10 premières années, approximativement, je vais peut-être me tromper dans le chiffre, mais je crois qu'il y a eu 17 morts. Plus les syndicalistes mis en prison, etc. Donc ce discours de criminalisation est dans l'air du temps. La presse s'y emploie largement. Hein. À la mort de Danger, la presse locale titre sur le syndicat du crime.
L'avocat de Jules Durand, c'est le jeune René Coty. Alors, il s'en est fait gloire tout au long de sa carrière. C'est sous sa présidence de la République que Le Havre a donné le nom d'un boulevard à Durand. Mais quand on regarde de près, est-ce que sa plaidoirie ne consiste pas aussi à charger les co-inculpés de Durand, ces ivrognes?
C'était un jeune avocat, très jeune. C'était son premier procès d'assises. Il était très lié, puisqu'il était avocat à conseil, de certains armateurs. Donc quelqu'un de proche des armateurs qui défend celui que les armateurs veulent faire disparaître. Là, il y a ambiguïté et source d'hésitation et de maladresse pour lui. Alors c'est sûr que, à lire sa plaidoirie, qui est une plaidoirie reconstituée, mais bon, ça, il y est pour rien. Il y avait rien pour enregistrer à l'époque. Dans sa plaidoirie reconstituée, pour le moins, on peut dire qu'il y a des maladresses sur les co-accusés. Tout ça dans la perspective de défendre Durand, mais enfin bon.
Les co-inculpés s'en sortent mieux, néanmoins, que Jules Durand, qui a la stupeur générale, est condamné à mort. Stupeur générale, même la veuve de Danger ne se satisfait aucunement de ce verdict. Et les camarades de la CGT du syndicaliste, en décembre 1910, en janvier 1911, multiplient les mobilisations pour sauver Durand, qui a été pris d'une crise de nerfs à l'énoncé du verdict et qui a déjà été soumis, en plus de la prison, à 40 jours de camisole de force.
Citoyens, pour protester contre la condamnation de Jules Durand, le port de Dunkerque est en grève. Les ports de Bordeaux, Marseille, Cherbourg déclenchent des grèves de solidarité. Camarades, le port de Bilbao est en état de siège. Les ouvriers charbonniers d'Espagne se sont révoltés pour obtenir la libération de Jules Durand. Le Durand gagne l'Italie. Le port de Naples est en grève.
Liverpool est en grève. Notre mouvement prend une ampleur qui déconcerte et terrifie le patronat. Les syndicats de Chicago ont décidé une grève de solidarité.
Chicago, la citadelle du syndicalisme. Chicago, la ville aussi martyre que nous honorons chaque année le 1er mai.
Les syndicats d'Australie, les ouvriers de Sydney, les marins de Melbourne,
les ouvriers de Cardiff, Newcastle, Birmingham,
les ports d'Anvers, de Cadix et d'Hambourg sont en grève. Vive Jules Durand!
Camarades, le citoyen Jean Jaurès et le citoyen Anatole France de l'Académie française sont en ce moment à l'Élysée où ils ne demandent pas mais exige la grâce de Jules Durand.
Liberté pour Durand ou grève générale ?
Ils n'obtiendront que la commutation de la peine. La libération viendra quand même, mais un an après, et par la Cour de casse, la Cour de cassation.
Voilà, c'est-à-dire le résultat de cette mobilisation mondiale qui est très oubliée maintenant. Rien qu'en France, il y a eu 500 meetings dans toute la France pour soutenir la cause de Durand, plus cette campagne mobilisation mondiale que l'on vient d'entendre. Mais l'acharnement contre Jules Durand s'est maintenu. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, le 22 décembre.
Coty, le maire du Havre, le comité de défense vont voir Falière, le président de la République, qui transforme la peine de mort en peine de 7 ans de prison, ce qui est particulièrement absurde. Enfin, c'est un non-sens.
Enfin, Falière était un de ceux qui, parmi les présidents de la République, a fait le plus contre la peine de mort.
J'essaie de me placer dans le contexte. C'est-à-dire, soit Durand est coupable, auquel cas 7 ans c'est dérisoire, soit il ne l'est pas, auquel cas 7 ans, et c'était le mot d'ordre de l'époque, 7 ans c'est trop. Bon, la campagne mondiale continue, et pendant ce temps, jusque fin décembre dans le quartier des condamnés à mort, enchaîné, la cagoule des condamnés à mort, la camisole de force, Durand a passé 35 jours comme ça. À partir de janvier, il n'a plus la cagoule des condamnés à mort, mais un régime très dur. Et c'est là que sa santé mentale, pour essayer de parler simplement, se détériore. Et l'urgence de le libérer, c'est-à-dire même pour le ministère de la Justice, qui veut se débarrasser de Durand avant qu'il ne devienne complètement fou. Là, je cite un peu des propos de l'époque. Durand va sortir de prison, de la prison Bonne Nouvelle de Rouen, le 15 février.
Après la décision finale de la Cour de cassation, il apparaît à ses camarades qui sont venus le chercher, mais c'est devenu un homme apeuré qui n'arrive plus à parler.
Il est très affecté. Sa compagne, Julia, les responsables du syndicat, des syndicats du Havre, viennent l'accueillir, le chercher à la prison. C'est un retour triomphal au Havre, mais il est incapable de s'exprimer. Il peut dire au meeting qu'il l'accueille, il peut dire qu'il est épuisé, qu'il remercie, mais il peut pas en dire beaucoup plus.
Le retour au domicile familial est très dur. On entendait les pigeons voyageurs au début de cette émission. Il les aurait étranglés un à un. Et jeter le Christ qui était au mur par la fenêtre pour le mettre au défi, un peu comme dans les soliloques du pauvre de Jean Rictus.
Exactement. C'est-à-dire que là, dans cette période d'instabilité où sa santé se détériore, les crises sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. Il défie le Christ, il met le feu au plancher de l'appartement de ses parents, il égorge ses pigeons, et là, son père est obligé de demander son hospitalisation à l'hôpital de Catmar, l'hôpital psychiatrique, l'asile psychiatrique à la périphérie de Rouen, où il va passer le dernier tiers de sa vie, et il mourra, après avoir été reconnu innocent en 1918, sans qu'il ait su qu'il ait été reconnu innocent, il va mourir au régime des indigents.
En 1926. Merci à vous, Jean-Pierre Castelin, les coordonnées de la Société des Amis de Jules Durand, que vous animez sur notre site. Et puis on attend la publication des actes d'un colloque que vous avez tenu à l'Université du Havre, en l'honneur du leader ouvrier Jules Durand, il y a peu.
Le livre s'appelle « Jules Durand, un crime social et judiciaire ».
Merci à vous, merci à Frédéric Martin qui a préparé cette émission, Jacques Sigal à la réalisation, Charles Danet à la technique.